Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Dès la rentrée prochaine, le Stade de France accueillera un très grand spectacle sur le thème des chevaliers de la Table Ronde. Cela s'appelle Excalibur, du nom de l'épée du roi Arthur. Et j'ai l'impression, Franck, que cela vous a donné des idées. Bonjour Franck.
Bonjour Fatima, bonjour à tous. Vous savez, moi, si je pouvais, je plongerais une fois pour toutes dans un roman de chevalerie. J'en sortirais plus. Excalibur, l'épée mythique d'Arthur, tout ça, ça me plaît énormément. Cet univers merveilleux, tissé de filtres magiques et d'affaires d'honneur, c'est un peu mon affaire. Bon, là, on va s'y plonger une heure, si vous voulez. C'est un début.
Avec plaisir. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à joindre Franck Ferrand, soit par Internet en allant sur le www.europe1.fr, soit par l'intermédiaire de Facebook sur la page de l'émission Au cœur de l'histoire.
Ou plutôt, cette fois-ci, au cœur de la légende, car vous allez voir que les personnages auxquels nous allons attacher nos pas ont pris naissance essentiellement dans l'imagination de leurs auteurs.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Arthur, Merlin, Viviane, Morgane, Lancelot, Perceval, les chevaliers de la Table Ronde. L'île d'Avalon, les grimoires, les basiliques et les épées magiques, dont Excalibur. Les idylles du roi, la quête du Graal, un château légendaire hérissé de hautes tours, Camelot, entouré de l'épaisse forêt calédonienne peuplée de créatures étranges, de sylphes et d'elfes, avec ses lacs couverts de brumes gazeuses, ses sorciers hantés par les sortilèges, ses griffons, ses chimères surgies du fond des âges, et baignant et résumant tout ça, un esprit de chevalerie courtoise, où les damoiseaux sont forts et nobles, les jouvencelles pâles et pures. Un univers de conte médiéval, en somme. Un univers de romans de chevalerie et de chansons de gestes qui nous ramène en plein XIIe siècle, avec tout au plus une teinture celtique, enfin disons galloise. La plus ancienne mention que l'on ait de cette épopée arthurienne, en tout cas la plus ancienne mention qu'on ait du nom même d'Arthur, remonte à une élégie d'une tribu celte qui se situait dans l'actuelle Écosse. On est là dans les années 570 de notre ère. Arthur est seulement mentionné comme un exemple achevé du grand combattant, le chevalier sans pitié pour l'ennemi. On est encore très loin là du chevalier courtois. Cela voudrait donc dire que la légende arthurienne est bel et bien fixée dans le dernier tiers du VIe siècle. Est-ce qu'elle est fixée depuis un demi-siècle ou depuis déjà 250 ou 300 ans? Ça, c'est très difficile et même en réalité, c'est impossible de le dire. Nombreux sont les spécialistes qui situent Arthur au 5e siècle, à l'époque des envahisseurs saxons. Vous savez, les Saxons déferlent depuis le continent jusqu'en Bretagne, nous dirions aujourd'hui en Grande-Bretagne, mais à l'époque c'est la Bretagne tout court. Les Saxons déferlent et le fameux Arthur serait parvenu à chasser, à bouter hors de l'île ces envahisseurs. C'est du reste l'éclat des victoires militaires d'Arthur qui aurait assis son incroyable postérité. Seulement, depuis longtemps, l'historien Scott Littleton a démontré qu'il était possible de donner au cycle arthurien une origine plus lointaine encore. Parce que, du temps de l'occupation romaine en Bretagne, il y a eu un général romain qui, entouré de lanciers mercenaires, s'est fait sur place une réputation de très grand guerrier. Il faut savoir qu'en 250 après Jésus-Christ, quelques 5500 cavaliers sarmates ont été affectés à la défense du mur d'Adrien. Vous savez que ce mur d'Adrien, c'est le limès, c'est la frontière qu'ont construit les Romains et au-delà de laquelle ils ne prétendent plus défendre l'Empire. Eh bien, pour défendre ce mur d'Adrien, 5500 cavaliers sarmates se trouvaient sous les ordres d'un certain Lucius Artorius. Artorius, ce serait le personnage qui aurait inspiré, à travers les siècles, la légende d'Arthur. Alors, qui étaient les fameux sarmates? C'étaient deux redoutables cavaliers armés de lances. Ils étaient originaires des steppes d'Asie centrale. Des lanciers donc, mais aussi des cuirassiers avant la lettre. Ils seraient les plus anciens cavaliers lourds de l'histoire militaire. De là à voir en eux le modèle des chevaliers de la table ronde, il n'y a qu'un pas. Un pas que, pour ma part, j'hésite tout de même à franchir. Je ne sais pas si vous avez vu le film d'Antoine Fuqua qui s'appelle « Le roi Arthur » qui est sorti en 2008 en France. Ce film reprend la thèse romaine. Il nous présente un Arthur qui est purement et simplement un général romain. Il est vrai que cette identification très ancienne, que cette thèse d'un Arthur antique, a pris du poids en 1990 avec la découverte d'une tombe qui se trouve aux limites de l'Écosse, justement tout près du fameux mur d'Adrien, à quelques kilomètres d'une petite ville, Longtown, qui se trouve donc au nord de Carlisle. On est donc dans une région qui était précisément celle où Artorius défendait le limès romain. Vous pouvez admirer la coïncidence. Selon l'historienne Norma Goodrich, cette tombe daterait précisément du IIIe siècle. Or, la commune sur laquelle cette tombe a été découverte s'appelle Arthurette, ce qui en celte voudrait dire « la tête d'Arthur ». Vous voyez que tout ça quand même finit par créer un faisceau assez troublant. Fortuna de l'archicélèbre Carmina Burana de Karl Hoff. C'est tout à fait dans l'esprit de cette histoire arthurienne. Alors, si un général Artorius, Artuth en celte, a profondément marqué ses contemporains lors de la défense du mur d'Adrien, donc de la frontière romaine au IIIe siècle, il est concevable que son nom ait pu être cité dans une élégie martiale dans la même région, les confins de l'Écosse, trois siècles plus tard. Mais vous voyez qu'à partir de ce moment-là, on est quand même assez loin et du 5e siècle et du Pays de Galles où la légende a été communément située. Comment peut-on arriver à concilier tout ça? Eh bien, vous allez voir qu'il existe un moyen.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire et à l'occasion du nouveau spectacle de Robert Hossein en septembre au Stade de France. Les billets sont d'ailleurs disponibles. Franck Ferrand revient sur l'histoire de l'Excalibur ou la légende du roi Arthur.
Je vous ai donné un certain nombre d'éléments sur les origines historiques d'Arthur. Alors, qu'en est-il du cas de Merlin ? Eh bien, selon l'Historia Britonum de Nennius, on est là au 9e siècle. Il y aurait eu, à la cour du prince gallois Gendoleu, un barde officiel portant le nom de Myrddin, ce qu'on a traduit par Marzin, soit en latin Merlinus. Ça passait mieux, évidemment. Ce Merlinus était un sorcier et à la mort de son maître à la bataille d'Ardéride, en 573, il aurait perdu l'esprit et se serait enfui dans la forêt épaisse pour y vivre en ermite, pour ne pas dire même en sauvage. Et c'est alors qu'il aurait peu à peu acquis, au contact d'un certain nombre de forces telluriques, qu'il aurait acquis son don, ses pouvoirs magiques, son don de prophétie. Vous voyez que cette fois, nous ne sommes plus en Écosse, nous sommes bien au Pays de Galles, et nous ne sommes pas au IIIe siècle, nous sommes bien au VIe. Ce qui, entre parenthèses, veut dire que ce Merlinus aurait été contemporain des Gododin, c'est-à-dire de cette tribu écossaise dont je parlais tout à l'heure. Serait-il possible, dès lors, que la légende écossaise d'un général romain du IIIe siècle et la légende galloise d'un mage local du VIe siècle aient été plus tard réunies, mêlées, synthétisées pour donner naissance à la légende arthurienne? Eh bien, je pense qu'on peut répondre oui, ou qu'en tout cas qu'on peut dire que c'est plausible, et d'autant plus plausible que la fixation de cette légende ne remonte quant à elle qu'au XIIe siècle, d'où cette esthétique de courtoisie féodale dans laquelle tout ça s'est retrouvé fondu. Je vais revenir sur tout ça dans un instant, mais auparavant, j'aimerais vous rappeler les grandes lignes de la légende. Des opéras de Wagner, des films d'Hollywood, un dessin animé de Walt Disney, Merlin l'Enchanteur, et même une parodie des Monty Python, Sacré Graal, des bandes dessinées évidemment, des jeux vidéo, pour ne rien dire des feuilletons télé comme Camelot ou Merlin. Le mythe d'Arthur est un des plus présents dans notre univers culturel et, si j'ose dire, fantasmatique. L'objet totem de cette légende, l'instrument magique de son ouverture, c'est la célèbre épée Excalibur. Du reste, dans la deuxième partie de cette émission, je recevrai notamment l'un des scénaristes d'Excalibur, un grand spectacle qui se donnera au Stade de France en septembre. Je ne pense pas qu'on puisse donner de meilleurs exemples de culture populaire que ce genre de grand spectacle. Quand je dis populaire, au meilleur sens du terme, vous voyez jusqu'où la légende arthurienne fait partie, encore aujourd'hui, de notre univers, de nos références, de nos divertissements. Alors, Excalibur, d'où vient ce nom? D'abord, je vous avoue que l'étymologie est tellement complexe et par ailleurs si peu certaine que pour une fois, je vous fais grâce, je vais renoncer à vous la donner. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'Excalibur apparaît au tout début de l'histoire. De quelle façon? Eh bien là, ça dépend des versions. Car, et ça c'est un des aspects fondamentaux de cette légende, les versions divergent en fonction des auteurs, ce qui, à chaque épisode ou presque de la légende, offre des alternatives aux scénaristes d'hier et d'aujourd'hui. Concernant cette épée Excalibur, pour simplifier, soit c'est Merlin qui l'a faite apparaître, qui la présente dans son socle, qu'il s'agisse d'une enclume ou d'un rocher. Vous savez que l'épée est complètement prise, soit dans le métal, soit dans la roche, et que seul celui qui est destiné à prendre le trône, à devenir le roi, aura le pouvoir de l'en sortir. Soit c'est Viviane qui donne l'épée à Merlin afin qu'il la remette à son tour à Arthur. Je dis que la légende arthurienne commence avec l'apparition d'Excalibur. Il faut ajouter tout de suite qu'elle finit également avec elle, puisqu'à la mort du roi, l'épée est remise à Viviane par un chevalier de la Table Ronde, Bédivert, qui la jette au fond du lac de Viviane, le but étant qu'elle ne puisse pas tomber en mauvaise main. Pour ce qui est du défi d'Excalibur, vous connaissez donc la légende, le trône est vacant, ça induit toutes sortes de troubles, de luttes entre les grands barons du royaume, et pour mettre un terme à cette anarchie, le mage, l'enchanteur Merlin, convoque les prétendants au trône à le rejoindre pour Noël. Et au cours de la nuit qui précède leur réunion, apparaît un rocher, certains disent un rocher surmonté d'une enclume, dans lequel l'épée est fichée comme scellée dans la roche. Jugement de Dieu ou épreuve de vérité, la couronne reviendra donc à qui peut déloger Excalibur, ce qu'Arthur va se révéler seul capable de faire. Alors, qui est-il, cet Arthur de la légende? Entendons-nous bien, nous ne parlons plus là du Arthur potentiellement historique, mais bien de celui qui est devenu familier à tous les amateurs de légendes médiévales. Arthur est le fils illégitime d'un ancien roi d'Angleterre, un chevalier mort au combat, Uther Pendragon, qui avait brillé par toutes sortes de conquêtes. Pendragon a connu un règne glorieux et cela spécialement grâce à l'aide qu'il a pu recevoir pendant tout le cours de ce règne du mage Merlin. À sa mort, c'est Merlin qui a recueilli le jeune Arthur et qui s'est chargé de son éducation. Ce n'était pas une surprise pour lui, je vous ai dit qu'il était devin, mais là, en l'occurrence, il avait tout prévu. Parce qu'autrefois, Uther Pendragon était tombé amoureux de la reine Ygraine, qui elle-même était déjà mariée à un autre seigneur, le duc de Cornouailles. Alors, le roi a passé un pacte avec Merlin. Le temps d'une nuit, l'enchanteur devait lui donner l'apparence du mari d'Ygraine afin qu'il puisse coucher avec elle. Et en échange, Uther avait accepté une condition fixée par Merlin, que l'enfant qui devait naître de cette nuit d'amour lui soit en quelque sorte réservé comme disciple, comme dépositaire de son expérience. Tout se passe donc comme prévu. Merlin change l'apparence d'Uther qui séduit Ygraine, lui fait un enfant et à terme, Merlin recueille ce fils illégitime tout en lui choisissant un père adoptif car Uther Pendragon est mort et la Bretagne se retrouve sans roi. D'où, après les années de formation d'Arthur, l'organisation de ce fameux défi d'Excalibur qui va permettre à Merlin d'installer tout simplement Arthur sur le trône. Arthur règne enfin. Il réalise, grâce à l'aide de ses chevaliers et de Merlin, toutes sortes de conquêtes. On est là dans le début du règne. Et puis, il se retire. Il s'installe à Camelot. Et on peut dater de ce moment, non plus les conquêtes belligérantes, les batailles, etc., mais la grande conquête, la grande affaire de toute la fin du règne d'Arthur, qui est la quête du Graal. Le Saint Graal, vous savez, ce calice qui aurait servi au Christ pour la dernière scène et dans lequel Joseph d'Arimathée avait recueilli son sang sur la croix. Arthur est marié, vous vous en doutez. Sa femme s'appelle Guenièvre. Elle symbolise un idéal féminin inaccessible pour tous les chevaliers de la cour qui la convoitent. Seulement au fond, son cœur n'est pas à Arthur. Son cœur appartient de longue date au chevalier Lancelot qu'elle aimait avant d'avoir épousé le roi. Arthur bannit le chevalier du royaume et Lancelot à ce moment-là devient un cavalier errant.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1, plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
La sublime musique de Richard Wagner, qui s'est beaucoup inspiré de ces légendes médiévales, c'était l'ouverture, ou plus exactement, le prélude du premier acte de Tannhäuser. Alors, il y aurait énormément de choses à vous raconter. Je ne vais pas entrer dans toute la légende d'Arthur, des différents chevaliers, de sa femme, de son fils, de ses enfants plus ou moins légitimes. Pour clore cette évocation rapide, on y reviendra dans la deuxième partie de cette émission, évidemment, il faut quand même que je vous dise un mot de la fameuse table ronde qui a donné son nom à la légende. Que symbolise-t-elle cette table ? Elle symbolise l'union des chevaliers les plus courageux du royaume en une sorte de confrérie qui symbolise l'égalité entre les chevaliers. Comment ? Eh bien, par la disposition même de la table, évidemment, puisqu'elle est ronde. Ce lieu est aussi un symbole de mérite, puisqu'il faut avoir fait ses preuves avant d'intégrer le cénacle. En un mot, la table ronde va peu à peu représenter un idéal de chevalerie. À son origine, c'était un cadeau de mariage que Merlin avait offert à Arthur et Guenièvre au moment où ils s'étaient mariés. Contre l'avis de Merlin, du reste, je le précise. Vous l'aurez compris à présent, cette légende arthurienne, quelle que soit la réalité très ancienne, peut-être antique, qui l'a plus ou moins inspirée, cette légende n'en est pas moins une création du XIIe siècle. Ce sont l'imaginaire, l'esthétique, la morale, ce sont les valeurs, les références du XIIe qui ont imprégné cette légende et lui ont donné ses caractéristiques. Dans quelles circonstances la recréation a-t-elle vu le jour ? Eh bien, c'est ici qu'un érudit du Somerset, il n'y a que les Anglais pour savoir créer ce genre de personnalité, on est dans le sud-ouest de l'Angleterre donc, c'est ici que le docteur Robert Dunning nous apporte des éléments très utiles. En 1977, ce monsieur a fait grand bruit dans le landerneau de la table ronde par des révélations fracassantes. Selon lui, la légende arthurienne, telle qu'elle s'est fixée et développée à partir du XIIe siècle, cette légende devrait beaucoup aux moines de l'abbaye anglaise de Glastonbury, donc en plein Somerset. Ce sont eux qui, brodant toute une histoire épique autour d'une fausse tombe royale, seraient à l'origine de la légende arthurienne. Glastonbury avait été fondé bien avant, à la fin du IIe siècle, par des missionnaires du pape Éleuthère. Ce serait du reste la première église chrétienne de Bretagne, d'Angleterre si vous voulez. Or, l'ancienne église du monastère flambe en 1184 et à ce moment-là, il faut la reconstruire. Et si les moines bénéficient d'un don généreux de Henri II Plantagenet, c'est loin de suffire pour une pareille entreprise. Et d'autant plus, on est tout près là, d'une histoire à la Ken Follett, on est près des piliers de la terre. C'est d'autant plus difficile que le fils et successeur d'Henri, le roi Richard dit Cœur de Lion, décide à son avènement en 1189 de couper les vivres aux moines. Dunning nous apprend que c'est à ce moment-là que les moines se seraient donc mis à broder toute une légende autour de Joseph d'Arimathie, du Saint Graal, du chevalier Lancelot, etc., etc. Et ils le font sur un canevas déjà largement développé par leur propre évêque, un historien-poète si l'on veut, qui n'est autre que le fameux Geoffrey de Monmouth, dont je vous parlais tout à l'heure, le premier écrivain identifié de cette légende arthurienne. Par la suite, la légende sera reprise et formalisée sur le continent par le poète français Chrétien de Troyes qui lui donne sa véritable ampleur et surtout sa tonalité de roman courtois. Ensuite, siècle après siècle jusqu'à nos jours, d'une manière presque infinie, chaque génération, chaque auteur a donné son inspiration, sa vision du monde arthurien, ce qui fait de cette légende, comme tous les grands mythes évidemment, un véritable miroir de la civilisation. Miroir qui aujourd'hui, à travers les productions télévisées ou le spectacle dont nous allons parler après 14h, nous renvoie une image qu'il va être passionnant de décrypter. Je vous donne donc rendez-vous juste après le flash pour un débat en présence de Martin Aurel, qui connaît toutes ces questions mieux que quiconque, et d'un des scénaristes du spectacle Excalibur.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
En septembre, au Stade de France, Robert Hossein présentera son nouveau spectacle, Excalibur. Et à cette occasion, Franck Ferrand revient aujourd'hui sur la légende du roi Arthur.
Cette émission est pour vous si vous êtes de fidèles téléspectateurs de Kaamelott, la série humoristique d'Alexandre Astier et Jean-Yves Robin, ou de la série fantastique Merlin produite par la BBC avec pour cadre le château de Pierrefonds. Mais cette émission est également pour vous et davantage peut-être encore si ce n'est pas le cas. Nous venons dans cette première partie d'évoquer les personnages majeurs de la légende arthurienne. Ce que j'aimerais voir maintenant dans cette deuxième partie et dans ce débat qui s'ouvre, c'est ce qu'il en a été réellement et d'où tout cela nous vient. Et nous allons en parler, en débattre avec Martin Aurel, qui est professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Poitiers et qui connaît alors vraiment mieux que quiconque cette légende arthurienne. Vous êtes Martin Aurel, notamment l'auteur de La légende du roi Arthur chez Perrin. Alors, est-ce que oui ou non, ce personnage ultra romantique et romantisé, j'allais dire quasiment wagnérien du roi Arthur a une origine historique?
En fait, c'est une question tout à fait controversée. Il y a des historiens qui considèrent que vraiment Arthur a existé, d'autres qui pensent qu'il est tout simplement le fruit de l'imagination, de l'imaginaire collectif, un mythe. Un mythe, c'est-à-dire un récit offert aux divinités pour obtenir des faveurs de leur part.
Une sorte de récit propitiatoire, en fait, quelque chose de magique, presque.
Absolument. Et en même temps, les mythes nous touchent profondément parce que ça renvoie à ce que nous avons de plus profond, la vie, la mort, la naissance, des thèmes qui nous touchent à travers les âges. Et les gens du Moyen-Âge disaient « c'est une matière, la matière de Bretagne ». Or, il faut voir ce que c'est que la matière. C'est une sorte de tohu-bohu, une sorte de masse informe qui n'attend qu'une chose, être adaptée, qu'on lui donne un sens à chaque époque. Sens, c'est-à-dire agencement, ordre.
Donc, c'est, en quelque sorte, sont de grands archétypes, sont des mythes fondateurs. Et c'est la raison, nous dites-vous, pour laquelle ils nous parlent autant. Quand même, de Walt Disney à John Boorman, en passant par les séries télévisées dont je parlais, qui ont un succès fou. Et puis bientôt, donc, ce grand spectacle au Stade de France. On a l'impression que les scénaristes, les romanciers, les auteurs de télévision et de cinéma reviennent constamment, comme étaient revenus du reste les auteurs du Moyen-Âge eux-mêmes. Chacun a apporté sa petite pierre à l'édifice.
Oui, tout à fait. C'était un thème donc qui était repris génération après génération. Et puis nous vivions dans un monde de l'oralité. Certes, nous avons la chance d'avoir conservé ces manuscrits superbes sur parchemin, illuminés, avec des lettrines, avec des couleurs. Ces parchemins coûtaient très cher. Ils étaient réservés à la très haute aristocratie. Et la plupart du temps, on avait besoin de conteurs, que ce soit des bardes, dans la civilisation celtique, ou que ce soit des jongleurs, des professionnels de la parole, des maîtres de la parole, mais qui vivaient au jour le jour de ce que l'on voulait bien leur donner dans les cours. Il y a une élégie qui est beaucoup plus ancienne, même si elle a été couchée par écrit dans un manuscrit du XIVe siècle dans le pays de Galles, qui s'appelle I. Gododin. C'est le nom d'une tribu, autour d'Édimbourg, de Celtes. Et ce récit est des années 570, c'est la première mention du roi Arthur, d'Arthur.
Donc là, on a quand même un indice. On aurait un roi Arthur qui serait plutôt un roi du très haut Moyen-Âge, de la fin de l'Antiquité.
Oui, absolument. On a cet indice dans ce poème où un des guerriers qui ont été tués, puisque c'est une élégie, la commémoration des défunts, des héros qui ont été tués par les anglo-saxons, est comparé à Arthur, parce qu'il jette les cadavres de ses victimes en pâture au corbeau. Et on dit, et pourtant il n'était pas Arthur. On a aussi des documents beaucoup plus fiables sur la véracité, l'authenticité du personnage Arthur. C'est 5 ou 6 inscriptions sur pierre et des vies de saints qui mentionnent véritablement des héros qui portait ce nom. C'est très curieux parce que pour la plupart, ce sont des Irlandais installés en Grande-Bretagne.
Alors ça, c'est Arthur, mais quid des autres personnages de Merlin, de Guenièvre, de la fée Viviane? Est-ce que eux aussi ont une trace très ancienne ou est-ce qu'ils
Oui, nous avons dans la littérature du pays de Galles, ou en tout cas langue celtique, Cymric, ils apparaissent dans des légendes, dans ce recueil qu'on appelle les récits de contes gallois. On voit apparaître Peredur, qui deviendra Perceval. On voit apparaître Merdin, mais Merdin, ça ne faisait pas très bien pour en latin. Donc
on a euphonisé les choses.
Voilà, on a euphonisé, on l'appelait Merlin, c'était plus élégant. Puis ça renvoyait aussi à l'oiseau, peut-être le druide qu'il était, avait-il la possibilité de se métamorphoser en un oiseau pour voir de haut, pour un peu comme les chamans qui ont la possibilité d'envoyer leur âme vers l'au-delà pour lutter dans les airs contre les démons. Vous voyez, cela rappeler toutes ces choses. Donc il y a eu des, comme vous dites très bien, on a transformé dans un sens d'euphémisme ces noms qui ne pouvaient pas toujours très bien sonner pour une oreille française ou romane.
Alors, au XIIe siècle, quels sont les grands auteurs qui fixent cette fois la légende?
Le très grand auteur latin est Geoffroy de Monmouth, qui est un personnage probablement d'origine bretonne continentale, armoricaine, puisque ses parents ou ses grands-parents seraient arrivés au pays de Galles à l'époque de la conquête de l'Angleterre par les Normands, avec Guillaume le Conquérant. Et Geoffroy est un clerc d'Oxford qui a eu l'idée géniale de mettre en latin ces légendes et de les historiciser, c'est-à-dire de leur donner des dates, de les placer dans un contexte historique, parce que...
Ça rendait les choses plus crédibles, en quelque sorte.
Absolument. Cette crédibilité, pour lui, c'était d'autant plus important qu'il avait un peu le complexe du breton. il y a une tradition qui veut que les Bretons, ce sont les brutes. Ces jeux de mots, cette étymologie, on la trouve même chez le grand encyclopédiste du Moyen-Âge, c'est Isidore de Séville. Or, on est en train de leur dire tout le temps, mais les Anglo-Saxons sont supérieurs et les Normands, n'en parlons pas, puisqu'ils ont écrasé les Bretons. Alors lui, il dit, pas du tout, les Bretons ont eu une très très grande histoire en Grande-Bretagne, en particulier avec le roi Arthur.
Vive les Bretons.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Guenièvre, Arthur, Merlin, aujourd'hui, Franck revient sur la légende du roi Arthur, en compagnie de ses deux invités, Serge Tinière et Martin Aurel.
Martin Aurel, qui est donc professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Poitiers. Vous nous parliez donc de ce Geoffrey de Monmouth qui a été le premier à écrire, à fixer la légende. En France, on connaît évidemment davantage Chrétien de Troyes.
C'est vrai que Chrétien de Troyes, c'est le père du roman français. C'est un des plus grands écrivains, si ce n'est pas le plus grand du Moyen-Âge. C'est un champenois qui écrit à Troyes. Parce qu'il profite du mécénat d'Henri le Libéral, comte de Champagne. C'est un clerc, quelqu'un qui a fait des études très poussées, qui veut aussi faire passer des messages religieux à travers ses romans, mais surtout qui les présente dans une ambiance féerique. C'est le merveilleux Breton qui atteint cette dimension si courtoise. C'est un homme de cour. Il vit avec les grands de ce monde. Il veut leur présenter un peu un miroir dans lequel il se voit, avec leur tournoi, avec leur errance, puisque
c'est-à-dire que la légende arthurienne revue et corrigée par Chrétien de Troyes nous renseigne davantage sur les mœurs de cour au XIIe siècle que sur, évidemment, les mœurs gaéliques du Ve.
Tout à fait. C'est ce qu'on disait sur la matière qui peut être transformée au fur et à mesure.
Alors, chaque auteur a apporté un peu son point de vue, sa version.
Voilà, son grain de sable. Puisque
sur le personnage de Morgane, par exemple, c'est très sensible. De fée bienveillante, elle peut devenir la fée noire et très malveillante.
La sorcière méchante. C'est vrai que dans le conte traditionnel, nous avons deux catégories de sorcières. Les bonnes, les gentilles, les bonnes fées. Puis nous avons celles qui emprisonnent les hommes. Qui font leur malheur.
Alors ça, c'est très pratique, parce que quand on veut adapter, évidemment, la légende, eh ben, on a la possibilité de choisir ce qui nous plaît, en quelque sorte. On fait son tri, on fait son marché. Serge Tinière est avec nous, merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
L'un des scénaristes de ce spectacle qui va avoir lieu donc, au Stade de France. Mmh. Vous avez, vous, butiné comme ça parmi les sources possibles ?
On a eu une pression énorme sur les épaules parce qu'en arrivant après tous ces auteurs, forcément, il y a des choix qui sont à faire. En fait, la vérité, en plus, Churchill disait que pour lui, il y avait trois textes, l'Ancien Testament, Ulysse, l'Odyssée, et puis l'œuvre de la légende arthurienne. Donc,
c'était peut-être pas mal vu, finalement.
C'est pas mal vu parce qu'effectivement, comme vous le disiez, là, je buvais les paroles de Martin Aurel, c'est un texte fondateur. Donc, nous avons butiné et en même temps c'est un cadavre exquis, donc on a aussi butiné en rajoutant et en choisissant des personnages en fonction bien de notre humeur du moment, c'est-à-dire de la société française, et aussi du fait que nous sommes dans un stade qui va accueillir plusieurs dizaines de milliers de personnes.
Alors dans cette légende il y a de tout, il y a évidemment de la fidélité, de la trahison, de la bravoure et comment, et de l'honneur, et de l'amour, etc. Vous avez jonglé, j'imagine, avec ces grandes émotions. Qu'avez-vous retenu et qu'est-ce que vous allez raconter au public dans ce spectacle ?
Pour résumer tout ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire on a essayé de garder toute la part de rêve qui fait vibrer véritablement les spectateurs quand on évoque cette légende arthurienne d'une part, et ensuite on a raisonné en se disant que finalement la légende arthurienne, et c'est la vie du roi Arthur, c'est la vie humaine, c'est-à-dire elle a un commencement, une ascension avec quelqu'un qui devient roi, et puis ensuite une chute finalement également, et que c'est toutes ces petites problématiques finalement que nous ressentons tous dans nos propres existences qu'il fallait mettre en avant pour pouvoir permettre au spectateur de s'identifier véritablement au personnage qu'il aura en face de lui.
Ça s'appelle Excalibur, donc évidemment tout tourne autour de cette épée sacrée qui va permettre de désigner le nouveau roi en quelque sorte, le roi Arthur.
C'est l'épée, pour nous, c'est l'épée qui est une offrande des dieux, on va dire, puisque nous on n'a pas choisi véritablement de faire une reconstitution historique. on se partage véritablement entre cette influence qui est celle du tout début de la légende arthurienne, qui est celle de ce monde et saxon, germain également, et également gaélique, et puis le Moyen-Âge flamboyant du 14e, 15e siècle, celui qui est né après justement les romans de Chrétien de Troyes, l'amour courtois. Donc l'épée pour nous est le dernier cadeau que les dieux ont laissé aux hommes pour leur permettre d'avoir une seconde chance.
Vous avez employé deux fois l'expression, c'est pour ça que je me permets de la relever. Vous dites les dieux, il y a quelque chose de quasiment polythéiste dans cette référence. Est-ce qu'on peut dire quand même que la légende arthurienne a été très christianisée, Martin Aurel?
Oui, c'est tout à fait certain. À partir des années 1200, bon, déjà chez Chrétien de Troyes, c'est très marqué, puisque Chrétien veut faire passer, entre autres idées, l'idée du mariage monogamique et un amour qui s'épanouit entre un mari et son épouse. C'est l'anti-Tristan, d'une certaine façon.
Il y aura
façon.
Quelques coups de canif au contrat, enfin, on verra
voilà.
Ça.
Et ensuite, vous avez la génération suivante, Robert de Boron en particulier, qui transforme le Graal véritablement en une relique eucharistique. C'est une relique donc christique, très chrétienne.
Ça, et à c'est le Saint Graal.
Voilà, c'est le Saint Graal.
Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de la fin du XIIe siècle, dites-moi, je parle vraiment sous votre contrôle, est-ce qu'on peut dire que l'objet central qui était Excalibur cède la place à un autre objet central qui est ce Graal, cette quête du Graal qui est une quête christique en quelque sorte. Il y a ce basculement.
Oui, vous avez raison. Il y a des chevaliers qui deviennent tout à fait pacifistes, les meilleurs, ceux de la quête du Graal. C'est l'anti-chevalerie, puisque Galad, il ne peut pas tuer. C'est plus fort que lui. Il le fait une fois, mais il est pris par des scrupules, par des remords terrifiants. Vous avez raison. L'épée cède le pas au Graal. C'est bien vu.
Alors, Serge Tinière, vous, c'est véritablement l'épée qui vous a inspiré dans votre écriture.
Oui, c'est l'épée qui nous a inspiré en tant que sceptre, d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est le sceptre du roi Arthur qui lui permet d'avancer dans l'existence et de croire qu'il est quasiment un demi-dieu, mais il se trompe parce que c'est juste un homme.
Nous revenons sur votre histoire dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous sommes en compagnie de Serge Tinière, qui est le co-scénariste du spectacle Excalibur, la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, qui aura donc lieu au Stade de France à partir du 23 septembre, et Martin Aurel, qui est professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'Université de Poitiers, grand spécialiste et connaisseur de cette légende arthurienne. Alors, puisque Martin Aurel est là, j'aimerais que vous nous disiez bien, Serge Tinière, où commence votre histoire et jusqu'où elle se déroule. Si je dis ça, c'est que nous avons la chance qu'aujourd'hui, cette légende arthurienne soit très bien connue de nos auditeurs et que les gens s'y repèrent finalement très bien. Alors, vous commencez quand et vous arrêtez où, en gros ?
Alors en gros, on commence à la mort du Ter Pendragon. Mm-hmm.
Le père d'Arthur.
Et là, le monde sombre dans le chaos le plus total. Et les dieux donc laissent aux hommes cette épée, Excalibur. Elle arrive posée au milieu d'une forêt sur un dolmen, pour avoir une petite référence justement à l'ancien monde, on va dire.
Fichée, imbriquée dans la roche.
Exactement, imbriquée dans la roche. Et le peuple essaye de retirer Excalibur, mais personne ne réussit, évidemment. Et à ce moment-là, les sommités, les dignitaires du royaume décident de désigner un roi pour un tournoi et se présente un chevalier qui est accompagné de son écuyer, c'est Arthur. Et cet Arthur qui rêve de devenir chevalier, eh bien, va réussir, lui, contre toute attente, à retirer cette épée, Merlin étant là, et va lui donner sa bénédiction en disant « Oui, c'est bien le fils du Ter Pendragon, c'est lui qui méritera de devenir le grand roi Arthur. »
Et Merlin joue un rôle important, j'imagine.
Bien sûr, c'est le conseiller, il est là, c'est un petit peu le Jiminy Cricket de notre roi Arthur.
C'est la conscience.
Exactement, c'est sa conscience, c'est aussi le rappel de l'ancien temps, de l'ancien monde, de l'époque où l'homme vivait en harmonie avec la nature, du monde des enchantements. Il est toujours à côté de lui et Arthur, très rapidement, eh bien, doit faire ses preuves parce que c'est un jeune homme et il va donc affronter les ennemis du royaume pour pouvoir en faire l'unité. Puis nous, c'était très important. Et parmi ses ennemis, eh bien, nous avons mis une princesse guerrière. C'est la belle Guenièvre qu'il découvre et dont il tombe éperdument amoureux et qu'il va décider d'épouser malgré les prémonitions, les présages noirs de Merlin qui lui dit ne le fais pas, ne l'épouse pas. Et lui, qui est un homme, écoute son cœur et l'épouse finalement. Eh bien, leur vie se passant, cette Guenièvre s'ennuie aux côtés d'Arthur parce que Arthur est pris par sa charge de roi. C'est un homme qui finalement est assez moderne, qui est un homme de pouvoir.
Et elle va le tromper.
Exactement. Et comme elle s'ennuie, eh bien, à l'occasion du tournoi de Pentecôte, durant lequel tous les chevaliers de la table ronde viennent pour se jauger.
On la voit, la table
jauger.
Ronde, j'imagine.
Exactement, la table ronde est là, évidemment. C'est le cadeau de Merlin, qui, justement, revient sur la rotondité du monde, sur l'égalité entre les chevaliers, sur les valeurs chevaleresques, ce qui nous a paru aussi très, très important de mettre en avant. C'est un monde de valeurs. C'est très important et je crois qu'on a beaucoup besoin de valeurs aujourd'hui et c'est aussi pour ça que la légende arthurienne nous parle. Et, eh bien, elle va le tromper avec Lancelot, qui est le grand champion, et, eh bien, le Mordred.
Le père du Galahad dont on parlait.
Exactement, père de Galahad. Et Mordred, le fils de Morgan et d'Arthur, puisqu'il y a une relation incestueuse, eh bien, va profiter de cette occasion pour s'emparer du royaume.
Alors, ces histoires d'inceste et de contre-inceste, Martin Aurel, font tout simplement penser à la mythologie grecque, par exemple, mais aussi à bien d'autres mythologies, qu'elles soient précolombiennes, parfois africaines, etc. On est donc bien dans un mythe fondateur d'une civilisation.
Oui, tout à fait. Et en même temps, c'est un mythe qui est très ancré dans sa période, puisque Mordred, fils de la sœur d'Arthur, en même temps fils d'Arthur.
C'est-à-dire qu'Arthur a une demi-sœur avec laquelle il va avoir un enfant, qui est Mordred.
Exactement. C'est aussi son neveu maternel, son neveu par sa sœur. Et c'est le lien qui existe dans la civilisation médiévale entre ce qu'on appelle la vunculus, en latin l'oncle maternel. D'ailleurs, nous avons conservé en français oncle, qui veut dire au départ oncle maternel, et privilégié. Souvent parce que c'est une société polygynique où les hommes ont plusieurs femmes et que les garçons sont très proches du frère de leur mère. Donc vous voyez la transgression que terrible Mordred est un traître contre son oncle maternel. Et l'inceste aussi brouille beaucoup les pistes. Mais nous sommes dans un contexte finalement très, très médiéval, tout en nous rapportant, comme vous le dites très bien, à des croyances anciennes, à des mythes fondateurs.
L'un des aspects qui parle le plus à nos contemporains assez étrangement, c'est la dimension magique d'un certain nombre de ces personnages. Je pense à Viviane ou bien sûr à Merlin. La magie qu'ils pratiquent est une magie de quel ordre ?
C'est une magie, disons, blanche pour Merlin, puisqu'elle sert à faire le bien. Mais en même temps, à force de transmettre ses secrets à cette jeune fille, à Viviane, à Morgane, eh bien, cette jeune fille est très rusée. Il y a une certaine misogynie dans le discours médiéval, réussit à l'enserrer, comme disent les textes en ancien français, à l'enfermer. Vous savez, les sorciers souvent tracent des cercles autour de leurs victimes. Arthur ne peut plus sortir d'un cercle imaginaire, d'un cercle magique où il a été enfermé par Viviane. Quand Merlin ne peut plus sortir. Quant à Merlin lui-même, bien sûr, c'est un personnage très ambigu aussi, parce que c'est le fils d'un démon qui a fécondé sa mère, qui est une sainte femme. Donc finalement, le libre arbitre permet à sa mère, avec l'aide d'un confesseur, Blaise, de sortir de ce que le côté obscur de la force ne l'emporte pas sur le bon côté de sa nature. Donc Merlin œuvre pour le bien, mais en même temps, sa fragilité diabolique le fait tomber dans les filets de Viviane à la fin.
Nous avons accompli cet exploit de passer une heure sur la légende arthurienne sans évoquer réellement cette fameuse table ronde offerte en cadeau de mariage par Merlin à Arthur et Guenièvre. Que signifie-t-elle ? Quel est le symbole de cette table ronde, Martin Aurel ?
La première mention de la table ronde qui apparaît sous la plume d'un clerc normand qui s'appelle Weiss, insiste sur l'égalité radicale de ces chevaliers qui s'assoient sans qu'il y ait de problème de préscience, parce qu'ils veulent être unis autour du roi, même si le roi est toujours plus fort, plus puissant, c'est lui qui fixe l'aventure qu'ils doivent accomplir. Et puis il y a un côté surnaturel aussi, un siège périlleux. Il y a un siège où, si vous
n'êtes pas... À la droite du roi ?
Voilà, si vous n'êtes pas assez pur, assez bon, vous allez directement, c'est un siège éjectable qui vous envoie à l'enfer, vous voyez. Donc il n'y a que Galad pratiquement qui réussit à faire
Galad qui a réussi à trouver le Graal, hein, qui a rapporté
absolument,
le Saint Graal.
C'est lui qui atteint, qui pourra avoir le Graal, mais avant cela, il a aussi tiré l'épée qui était fichée dans le perron. Une autre épée qui est arrivée par un fleuve, donc sur un bloc de marbre. Nous sommes là dans le merveilleux, dans le magique, bien sûr.
On va jusque-là dans le spectacle, Serge Tinier ?
On va jusque-là dans la mesure où la puissance des sentiments est identique et que ce que nous avons essayé de mettre en place aussi visuellement et dans les tableaux, c'est une véritable fresque très puissante où on sent véritablement les émotions qui sont les émotions de la trame et de la dramaturgie qu'on retrouve dans la légende du roi Arthur. Donc on va effectivement jusque-là. Nous n'avons pas de rivière ni de bloc de marbre qui flotterait dessus, effectivement, mais on va quand même dans la puissance de ces sentiments-là, oui, tout à fait.
Excalibur, la légende du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde, racontée par le cher Robert Hossein, que nous saluons très chaleureusement, c'est le 23 et le 24 septembre prochain au Stade de France. Je crois qu'il est temps d'accueillir Faustine Bollard. Bonjour Faustine.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Comme tous les mercredis, on va parler des enfants aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de l'autisme qui a eu lieu samedi dernier. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la scolarisation des enfants autistes. Si c'est un droit garanti par la Constitution, en réalité, seul un petit nombre d'enfants a vraiment accès à l'école. Alors qui aide ces parents qui se battent à vraiment avec beaucoup de passion et d'enthousiasme pour assurer l'éducation, et d'orage plutôt que d'enthousiasme d'ailleurs, hein. Ces parents donc qui se battent pour assurer l'éducation de leurs enfants, qui accompagnent également ces enfants au quotidien. On va en parler tous ensemble. Alors évidemment, si vous êtes un parent concerné, venez nous parler de votre parcours. Avez-vous réussi à inscrire votre petit à l'école? Est-il scolarisé à temps plein ou à temps partiel? Si votre enfant a un camarade autiste dans sa classe également et qui voudrait témoigner de ce que c'est que cette vie à côté de lui au quotidien et de ses sollicitations permanentes, 39 21 pour nous joindre. Puis également le mail franckfaustine.europe1.fr.
À demain, merci Fatima.
À demain Franck.